Bonjour, dans Chrétien d'Orient, je suis avec Sacr Ben Hassine, bonjour. Alors nous allons parler, qui va guider nos pas, qui va guider nos phrases et notre cheminement matinal en ce dimanche. Voilà, un auteur important, je parle d'Ibn Arabi, dont vous venez de traduire une œuvre magistrale, l'esprit de sainteté dans le conseil de l'âme. Alors tout de suite, nous allons un peu contextualiser ce travail et la vie de l'auteur et tenter dans la mesure du possible de faire un lien avec le fond de notre émission qui est le christianisme oriental. Il me semble important, très souvent, parfois, de sortir de notre zone de confort pour nous intéresser à l'autre, aller voir de l'autre côté du miroir ce qu'il se passe. Et Ibn Arabi est un personnage, je pense, qui permet ce genre de voyage, le soufisme aussi.
Merci de m'inviter. Effectivement, c'est juste à l'opposé, donc c'est vraiment un miroir, comme vous le dites si bien. Ibn Arabi, c'est quelqu'un qui est né en Andalousie, à Murcie, c'est quelqu'un qui a grandi à Séville, c'est quelqu'un qui a été très très tôt pris dans une quête spirituelle très très intense et très particulière, et très symptomatique d'un changement dans le cours de l'histoire humaine. Il se décide à un moment, après avoir vraiment été initié par de très grands maîtres andalous, donc du Maghreb, à partir, à quitter l'Andalousie pour l'Orient. Alors son premier souci, c'est justement de pouvoir transmettre quelque chose que l'Orient n'a pas, c'est-à-dire une conception du soufisme, a du mal à comprendre parce que il y a des influences chrétiennes très fortes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Orient, par rapport au soufisme. Alors que Ibn Arabi vient pour dire notre soufisme, il est du terroir, c'est un soufisme sémitique, c'est un soufisme à la limite un peu berbère, qui vient contre donner comme un contrepoids au soufisme oriental. Donc son voyage n'est pas déserté l'Andalousie parce que, bien sûr, il y avait des troubles très importants. Rappelons que Ibn Arabi est né en 1165 et mort en 1240. Donc il a 38 ans, il y a la Reconquista, donc Tolède est perdue, les Castillans n'arrêtent pas d'enfoncer des coins dans la péninsule le sud de la péninsule ibérique, donc l'Andalousie prend des coups répétés. Et puis on a cette espèce de basculement entre les Almohades, les Taïfas, les Roitelets des petites contrées, etc., qui fait que on arrive à un moment où vraiment c'était très très délicat pour tout le monde. Et pour moi, Ibn Arabi pensait vraiment porter un legs fondamental, c'est-à-dire vraiment prendre le trésor et aller ailleurs pour le diffuser, pour le montrer au monde entier.
Alors le départ qui deviendra un voyage, mais finalement un exil, parce qu'il ne reviendra plus en arrière dans son Andalousie natale, pardon. Il ne reviendra plus en arrière après.
Je pense que la décision a été prise depuis très longtemps parce que, bien sûr, Ibn Arabi écrit beaucoup, mais il écrit beaucoup en autobiographe aussi, c'est-à-dire qu'il raconte beaucoup sa vie. Il parle de ses démêlés avec les Almohades parce que quand même, il était très proche des Almohades de par sa descendance. Il descend d'une famille très noble, très, très ancrée dans la réalité politique de l'Andalousie. Et il décide de ne pas rentrer là-dedans, c'est-à-dire que malgré des appels très concrets par rapport au roi Almohade d'être dans son service, dans son divan, comme on disait à l'époque, Ibn Arabi rejetait cette demande et il essayait vraiment de trouver la solution pour pouvoir quitter noblement et ne pas transgresser son vœu de départ qui est celui de vivre pour la spiritualité.
Alors vous êtes algérien vous-même, vous avez eu une vie basée dans plusieurs domaines, vous avez fait des études de chimie, vous travaillez sur des textes anciens, vous éditez parfois même vous-même des travaux. Comment se plonge-t-on dans une telle entreprise de traduction, donc l'esprit de sainteté dans le conseil de l'âme, donc ce texte d'Ibn Arabi? Il faut quand même avoir une vocation personnelle pour aller dans cette direction.
Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai quitté les études de chimie même avant d'avoir eu mon diplôme d'ingénieur parce que il y a cet appel, comme dirait Nerval, cette théopathie dont je suis atteint depuis très très jeune. Donc, à un moment, il fallait vraiment choisir. Est-ce que c'était la chimie, la technologie, l'industrie, ou alors c'était la quête vraiment qui pour moi importe le plus, qui est la quête de soi, la quête de sens, de tout cela. Et Ibn Arabi, je l'ai rencontré, je le raconte dans le préliminaire qui est assez long, parce que nécessairement long. Je parle de cette rencontre que j'ai avec Ibn Arabi, le prenant pour un auteur inconnu, le prenant pour quelqu'un de bien de chez nous, parce que ça sonne très très algérien en même temps comme nom. Ben Larbi, c'est pas du tout compliqué, il y en a plein. En Algérie, vous avez ce nom de famille qui est très répandu. Donc je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis ce n'est pas une digression, je reviens dessus. Je lis un peu ce texte et je me dis, voilà un texte vraiment pathétique, voilà quelque chose qui me choque. Le texte en lui-même est assez choquant. C'est une épître qu'il envoie à un maître, où il se plaint de plein de choses. Il se plaint de plein de choses, c'est-à-dire que il raconte sa vie, il est en conflit très très intense avec son âme, mais aussi avec l'Occident, mais aussi avec l'Orient, mais aussi avec la compréhension de l'islam, mais aussi avec les politiciens de tous bords. Et donc, à un moment, c'était tellement intimiste que j'ai été choqué. J'ai eu beaucoup de tendresse pour ce texte que je ne connaissais pas du tout, et que je ne connaissais pas à l'époque non plus Ibn Arabi. Ça remonte à 88, à 1988. Et c'était un choc émotionnel assez intense pour moi. C'est un texte que j'ai relu par la suite, que j'ai re-relu, que j'ai beaucoup, beaucoup lu et étudié. Et puis, lors de ma rencontre avec ma compagne, avec laquelle je partage ma vie, un des premiers sujets de débat, parce qu'elle est éditrice, c'était cette question-là. Est-ce que tu as des questions qui ne sont pas traitées? Est-ce que tu as des textes qui n'ont pas été traduits en français et qui sont fondamentales dans la culture musulmane? Est-ce que tu peux me dresser une liste? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une liste d'une dizaine de titres d'œuvres qui n'ont pas été traduites en français. Et à la tête de cette liste, il y avait ce texte qui s'appelle en arabe Ruh al-Qudus fi munasahat nafs, que je traduis par l'esprit de sainteté dans le conseil de l'âme.
Alors vous-même, vous êtes à cheval sur plusieurs cultures, sur plusieurs langues. Est-ce que vous vous êtes identifié très modestement, bien entendu, avec la vie et le travail d'Ibn Arabi à l'époque, qui est quand même un penseur majeur, qui était à l'initiative de beaucoup de concepts et qui a irrigué jusqu'à notre époque, à la fois dans le côté musulman par le soufisme, mais aussi par une forme de sagesse qui dépasse finalement la seule appartenance religieuse.
Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas, quand on lit avec sincérité et comme je l'ai fait, c'est-à-dire avec envie de comprendre les choses les plus essentielles, on ne peut pas ne pas entrer en quelqu'un comme Ibn Arabi. On le découvre petit à petit. Mais en même temps, c'est toujours un conflit, c'est-à-dire qu'Ibn Arabi n'est pas simple. C'est pas quelqu'un qu'on lit et qu'on a envie de relire parce que c'est agréable de le lire. C'est quelqu'un qui fait mal quand on le lit. C'est quelqu'un qui vous dérange, c'est quelqu'un qui vous délocalise, c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Et qui vous renvoie à des recherches intimes avec vous-même, parce que, comme il le dit, il aime divulguer, mais il aime voiler aussi. C'est-à-dire qu'il aime dire les choses, mais arrivé à un certain moment, il va vous dire, maintenant, c'est à toi de continuer. Moi, je vais pas tout te donner, parce que je ne parle pas de vérité, je parle de réalité. Donc, la réalité, il faut aller la chercher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'abaisser, on ne peut pas, elle n'est pas de l'ordre du verbe, elle n'est pas de l'ordre du logos, elle n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut dire, ou du discours, c'est quelque chose qu'on doit trouver nous-mêmes. Donc cette résonance dans laquelle je suis depuis, avec Ibn Arabi, je ne le cache pas, elle continue, elle m'irrigue, elle m'initie, elle me fait vivre un peu, j'allais dire, en décalé par rapport à la réalité matérielle, matérialiste, etc., pour pouvoir vraiment juger les instants, c'est-à-dire vivre la vie dans le présent, mais profondément dans le présent, c'est-à-dire toujours avec une lecture, toujours avec une herméneutique de ce qui nous arrive. Voilà ce que Ibn Arabi m'enseigne.
Nous sommes dans Chrétien d'Orient, nous sommes ce matin avec Sacr Ben Hassin pour évoquer l'esprit de sainteté dans le conseil de l'âme, donc une figure importante, Ibn al-Arabi. Que savons-nous sur ses rapports et ses liens à l'époque avec les intellectuels chrétiens, juifs peut-être, lorsqu'il arrive au Caire, lorsqu'il arrive à Damas, lorsqu'il se déplace, il rencontre, j'imagine, des gens qui appartenaient eux-mêmes aussi à une grande tradition de traducteurs. Peut-être qu'on peut rappeler que les Syriaques, notamment dans toutes ces villes, en tant que traducteurs, ont permis à des textes de la philosophie grecque, par exemple, d'être traduits en arabe.
Ibn Arabi a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, bien sûr en Occident, évidemment. Ils vivaient ensemble, il y avait une communauté à Séville qui était très hétéroclite. Il y avait donc beaucoup de chrétiens, évidemment. Beaucoup de juifs aussi, qui étaient vraiment dans le système, et les chrétiens aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation. C'était une ville cosmopolite où vous aviez des gens des Balkans, vous aviez des Normands, vous aviez des Italiens, vous avez bien sûr des Ibères, et Ibn Arabi a vécu là-dedans, c'est-à-dire que c'est quand même un enfant d'une multiculture inhérente à lui depuis sa plus tendre enfance, hein. Donc vraiment c'est quelqu'un qui a connu des blondes, qui a connu des brunes, qui a connu des gens de voilà, donc il a bien vécu. Et c'est en même temps quelqu'un qui est assez critique par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire que il a bien sûr évidemment lu la Bible, il a lu les Évangiles, il a lu les textes fondamentaux des monothéismes. Et il est critique en même temps par rapport à ça. C'est-à-dire que dans ses rencontres, et notamment au Caire ou à Mossoul, avec des chrétiens, il a des choses à apporter, c'est-à-dire une herméneutique des évangiles précisément, qu'il ne trouve pas chez les orientaux, surtout chez les, parce que les choses sont peut-être trop, pour lui, trop cristallisées, trop fixées, trop dogmatisées, et donc il vient irriguer une compréhension des évangiles vue par lui-même, parce que n'oublions pas que son premier maître à Ibn Arabi depuis qu'il était tout petit, c'est Jésus-Christ en personne.
Ce grand spirituel considère Jésus comme son premier maître, celui qui l'initia et le garda sous son regard tout au long de sa vie. À titre d'exemple, se basant sur le Coran, il nous dit que Gabriel, en annonçant à Marie la naissance de Jésus, lui transmet la parole divine sous la forme de Jésus lui-même. De ce fait, le Christ est le message divin en tant que parole de Dieu qui s'est incarné en Marie. C'est quand même étonnant comme
oui,
analyse.
Oui, tout à fait. C'est ça ce que Ibn Arabi apporte. C'est-à-dire que il est là pour dire il n'y a pas de contradiction dans le message ou dans les manifestations des révélations divines pour les humains. Il y a une continuité. Après, c'est les hommes qui comprennent les choses à leur guise. Et ça fait des dogmatismes, ça fait des dissensions, ça provoque même parfois des guerres. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a une mécompréhension du message. Donc Ibn Arabi, sans être exclusiviste, je ne dis pas que c'est lui qui a compris. Je dis seulement que c'est quelqu'un qui se permet de donner un avis et une compréhension, une herméneutique à quelque chose que nous partageons, nous musulmans, avec les chrétiens. Donc il vient dire, mais nous aussi, on est concernés par Jésus, on est concernés par Marie. Il n'y a pas de rupture chez nous, du tout. À partir du moment où vous êtes dans la foi musulmane, vous lisez le Coran est très clair. Marie et Jésus sont vraiment, pour le Coran, entre guillemets, je cite, un signe pour les mondes. Marie et Jésus sont un signe pour l'humanité entière. C'est-à-dire que là, c'est le legs que nous donne Jésus pour nous expliquer qu'il y a quelque chose qui dépasse le matérialisme. Il y a quelque chose qui dépasse l'histoire positive, si vous voulez. C'est quelque chose qui est en dessous des apparences, qui est quelque chose comme un miracle continu. Et Ibn Arabi vient pour dire, par exemple, hein, il y a beaucoup de sujets qu'aborde Ibn Arabi concernant Jésus et concernant Marie aussi, parce que déjà Marie en elle-même est un sujet très très important et très fondamental en islam, pour dire, quand l'ange Gabriel vient, qui est justement l'esprit de sainteté que Ibn Arabi invoque dans cette œuvre et que nous invoquons aussi.
Il incarne lui-même l'esprit de sainteté.
Tout à fait, il l'est. C'est-à-dire que c'est un des noms de Gabriel, l'esprit de sainteté. Ou l'esprit fidèle aussi. Donc il a plusieurs noms dans le Coran. Gabriel, l'archange Gabriel a plusieurs noms. Donc c'est celui de la révélation, c'est l'enseigneur des prophètes, hein, des envoyés. Et c'est en même temps quelqu'un qui est là pour inspirer les hommes tout le temps. Il ne s'est pas envolé, il n'est pas au septième ciel, il est toujours avec nous. Et Ibn Arabi nous le montre, nous le prouve, il dit, chaque fois que quelqu'un est inspiré, ben il l'est par le Saint-Esprit.
Alors je voudrais évoquer avec vous, Sakr Ben Hassin, ce matin, une autre figure importante qui nous ramène un petit peu plus vers le contemporain, c'est la figure de l'émir Abdelkader. Alors pour que nos auditeurs le sachent bien, il faut dire qu'Ibn Arabi a compté énormément dans la pensée de l'émir, donc au XIXe siècle. Il meurt à Damas en 1883, et lorsque j'avais moi-même voyagé à Damas il y a quelques années, j'avais été très frappé de voir que l'émir Abdelkader, donc le héros de la résistance algérienne à la présence française au la première moitié du 19e siècle, d'abord était mort à Damas et ensuite avait voulu se faire enterrer à côté de la tombe de son maître spirituel Ibn Arabi.
Oui, bien qu'il y ait quelque chose comme, on va dire, 6 siècles entre les deux, parce que bon, voilà, on est au 12e et là on est au 19e, grosso modo, c'est 6 siècles à peu près.
Mais quand on est soufi, on peut se tutoyer au-delà des siècles, non?
Oui, bien sûr. L'émir Abdelkader considère, mais il le dit maintes fois, que Ibn Arabi n'est pas un des maîtres du soufisme, c'est son maître direct. C'est-à-dire qu'il y a une façon de communiquer qu'Ibn Arabi a enseigné à ses disciples et qui est opérante jusqu'à aujourd'hui, qui est justement de communiquer au-delà du temps, au-delà de l'espace. Donc il a ce maître direct qui est Ibn Arabi et, permettez-moi de le rappeler, l'émir Abdelkader est le premier éditeur d'Ibn Arabi. Parce qu'Ibn Arabi est quand même quelqu'un qui est lu dans des cercles très fermés. Il a été mis à l'index depuis très longtemps, il l'est encore. C'est quelqu'un qu'on ne comprend pas, c'est quelqu'un, on n'arrive pas à le situer. Il est monothéiste, voilà, il n'est pas assez musulman pour les rigoristes. Et donc, c'est assez hermétique et c'est assez fermé comme cercle. Et l'émir décide dans les années 1860 d'éditer justement l'opus magnum d'Ibn Arabi, qui est Futuhat al-Makkiya, qui est vraiment une somme spirituelle impressionnante qui impressionne tout le monde à travers la planète. Et il va donc publier, imprimer cet ouvrage et le divulguer à l'humanité entière, c'est-à-dire qu'il fait exploser les cercles fermés des études entre guillemets akbariennes, c'est-à-dire en référence à Ibn Arabi qui est appelé aussi al-Sheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres. Et on a depuis une panoplie d'ouvrages qui sont édités d'Ibn Arabi, qui était très prolixe, qui était très qui écrivait beaucoup, qui a à peu près 500 ouvrages quand même, c'est beaucoup. Et entre autres, donc il y a beaucoup de choses qui sortent et il y a cet on va dire engouement pour Ibn Arabi. On traduit beaucoup Ibn Arabi, on le traduit énormément. En Occident, il est très intéressant. Il apporte des questions qui nous touchent directement, c'est-à-dire quelle est notre position au-delà de tout.
On parlait de l'époque d'Abdelkader, mais c'est valable aujourd'hui, sinon
justement,
surtout aujourd'hui.
Nous sommes dans la lancée de l'émir Abdelkader, c'est-à-dire qu'il a initié un mouvement.
Avant de revenir sur le présent peut-être qui va nous intéresser, je voudrais rappeler un acte héroïque de l'émir. L'émir Abdelkader, c'est en 1860, en juillet 1860 à Damas. Il sauve des milliers de familles chrétiennes du massacre. Nous sommes à Damas, un front d'insurrection se manifeste et lui à la tête de ses Algériens, c'est les textes de l'époque, hein, j'ai trouvé ça dans les archives, il part 1000 Algériens qui venaient justement avec lui en exil depuis l'Algérie, réfugiés à Damas, ils prennent contre les autorités ottomanes de l'époque l'initiative de préserver et de sauver les quartiers chrétiens de Damas. Un acte qui va en faire un héros de son temps. Il est remercié par tous les souverains, il est décoré en France, en Angleterre, et ça c'est quelque chose qui est assez oublié je pense aujourd'hui.
Oui, maintenant on l'oublie un peu, mais il faut aussi recontextualiser cette époque, c'est-à-dire que l'Empire ottoman commence à recevoir des coups assez sérieux de la part de l'Occident. Hein. Donc il faut resituer les choses, c'est-à-dire que
oui, mais lui ne se pose pas cette question-là, si je puis me permettre. Lui, c'est le soufi, c'est l'homme qui parle.
Pas du tout. Lorsqu'il intervient, il part d'un principe très simple que Cageron cite dans un de ses ouvrages. Ce qu'il dit très clairement, c'est-à-dire que cette parole, cette phrase, cette harangue a été consignée. Il dit aux musulmans de Damas, vous déshonorez l'islam en faisant ce que vous avez envie de faire. Réfléchissez. Est-ce que vous voulez que l'église des Omeyyades, enfin la mosquée des Omeyyades, qui est justement l'église de Saint-Jean de l'époque, soit reprise parce que vous avez agi mal contre les chrétiens? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc il est très concret par rapport à ça. C'est-à-dire que non seulement il défend ses chrétiens, mais il défend aussi ses musulmans. C'est-à-dire que non seulement il est humaniste dans ce sens-là, mais il est pragmatique. C'est-à-dire qu'il arrête une guerre qui allait commencer. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est autant un soufi, autant un spirituel, c'est autant aussi quelqu'un qui est ancré dans la réalité. C'est-à-dire qu'il parle très clairement aux gens.
Sacre Ben Hassine, il nous reste 2 petites minutes. Que pouvons-nous retirer comme expérience de cette époque, de cette pensée, pour comprendre le présent?
C'est très simple. Il faut voir le présent avec des yeux ouverts, c'est-à-dire voir la réalité du présent. À la lumière, bien sûr, à la lumière de ce qu'on a comme enseignement spirituel et au-delà. Il faut regarder juste les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'enseignement premier et dernier de l'émir Abdelkader, mais aussi d'Ibn Arabi. C'est-à-dire, voyons les choses telles qu'elles sont et arrêtons de nous raconter des histoires et de voir les choses à travers des prismes qui déforment la réalité.